Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 249. Aujourd'hui, la seconde partie de l'interview de Maître Mini que nous avons démarré la semaine dernière. Maître Mini, avocate avec une certaine expérience, qui nous parlait de la discrimination que pouvaient éventuellement subir les pères au tribunal familial dans les dossiers de séparation. Alors, cet entretien s'était ensuite prolongé parce qu'il y a une véritable profondeur chez Maître Mini. Et nous avions ensuite discuté, notamment sur YouTube, et je vous livre aujourd'hui la suite de cette discussion. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Moi, j'ai l'impression, en tant qu'observateur de l'extérieur, que, après, quand je dis ça, on se fait traiter de réactionnaire et autres, qu'il y a vraiment une intrusion de l'État dans la sphère privée, qui veulent s'occuper de tout. Maître Domergue, un de vos confrères, me disait que les magistrats voulaient s'occuper de plus en plus de choses, alors qu'ils avaient de moins en moins les moyens de le faire.
Moins en moins les moyens, moins en moins de temps aussi. Le contentieux familial, il est énorme. C'est pour ça qu'on a des dossiers, des audiencements à des fois un an selon les juridictions. Il y a de plus en plus de contentieux, donc forcément, et c'est assez paradoxal, qu'ils veuillent justement s'immiscer trop dans la vie. Alors pourquoi, au fond, je ne sais pas. Je pense qu'ils se rendent compte aussi que les parents, ils sont tellement dans un rapport de force qu'ils se disent, bon ben je vais devoir tout gérer. Vous avez à côté de ça des magistrats qui sont super et qui n'hésitent pas à remonter les bretelles des clients en rendez-vous en disant, non mais attendez, enfin en audience, en disant, non mais attendez, là c'est à vous de le faire, etc. Et des fois ils ont besoin de l'entendre de la part de la justice. C'est compliqué. Il y a eu trop de débordements des mères qui ont abusé à l'encontre des pères. Franchement, il y a eu des débordements des pères aussi. Il y a certains pères aussi. Alors, dans les pères, il y a quand même deux cas de figure qui émergent. C'est-à-dire qu'il y a soit le père qui est totalement défaillant, qui va tout juste payer la pension et qui sait pas trop s'il a des enfants. Soit les pères, des fois, trop investis. Et il y a aussi des pères qui, dans ce sens-là, ils sont tellement investis qu'ils aimeraient bien aussi que la mère soit réduite.
Oui, donc là, il y a aussi
faut rester objectif aussi sur la présentation des choses. Il y a ça
oui,
aussi.
Non, mais en général, franchement, et beaucoup d'entre nous, on en a marre d'être considérés que comme des distributeurs de billets. Faut le dire aussi.
Ben voilà. Et alors, ça, c'est le problème. C'est-à-dire que quand vous, pour un père, il faut comprendre que si vous êtes réduit un week-end sur deux, et qu'en plus vous êtes réduit à faire un chèque tous les mois, vous avez l'impression qu'en fait, vous avez que les inconvénients, mais pas les avantages, c'est-à-dire passer du temps avec vos enfants.
Ah, mais aujourd'hui, parfois, réclamer l'application de l'autorité parentale, c'est uniquement accéder aux informations administratives. C'est le droit de savoir où est-ce que l'enfant va à l'école, de temps en temps s'il est hospitalisé, l'accès au logiciel, et l'autorité parentale, c'est bon, elle est respectée. C'est ça, l'autorité. Parfois, l'autorité parentale se réduit à ça.
Mais on a un souci avec l'autorité parentale, c'est-à-dire que c'est pareil, code civil, des beaux textes, de belles définitions qui sont généralement reprises d'ailleurs dans les décisions judiciaires en disant attention, vous avez l'autorité parentale, ça veut dire que vous devez vous concerter pour l'école, vous devez vous concerter pour la religion, etc. Mais dans les faits, oui, non, mais ça c'est un beau papier.
Oui.
Dans les faits, il y a des établissements scolaires qui autorisent la mère à radier l'enfant sans que le père soit au courant. C'est normal.
Oui, mais quelque part, oui. Enfin, j'ai plein de cas parce qu'à l'époque, j'étais du tien, je faisais les permanences, tout ça, le père. Parce que si vous avez un enfant qui est déscolarisé et qui est en phase de l'école, la troisième semaine, vous le scolarisez pour pas le laisser dans son appartement tout seul. Et donc, dans les faits, oui, ben oui, voilà, oui.
Non, moi, je vous parle pas de ces cas-là.
Ah, mais madame est partie pour une scène de réflexion à 800 km, elle prend un appartement quelque part, elle va voir l'école, ben l'école, il va prendre l'enfant pour pas le laisser déscolariser. Donc,
je trouve ça inacceptable. Le père n'est même pas au courant.
Événement géographique volontaire, madame, c'est d'une banalité.
Oui, mais ça, c'est pareil.
Oui, mais c'est très banal. Oui, c'est jamais sanctionné. Jamais.
Mais non, c'est jamais sanctionné. Et puis moi, les clients, quand je leur dis, on peut engager la responsabilité civile personnelle, la mère a commis une faute, il y a un dommage, forcément. On peut engager, mais il n'y a pas de budget avocat, il faut savoir aussi, parce que vous voyez, on n'a pas évoqué le problème des honoraires, mais il n'y a pas de budget avocat dans les familles. Donc, faire des procédures, c'est bien, mais il faut que ça soit quand même ciblé et ultra nécessaire. Ce genre d'actions qui sont
Madame,
possibles.
Le problème, c'est que pour aller vous voir, les coûts ne sont pas déduits des impôts sur le revenu ou des calculs CAF, et donc forcément, c'est soit sur les dépenses de loisirs, soit sur les propriétés personnelles. Donc ça provoque un conflit, provoque un assaut. sèchement, quelque part, jusqu'au moment où ils arrivent aux minima sociaux, et puis la GIE se met en route. Mais ils ont été aspirés de tout ce qu'ils avaient, parce que ces frais qui sont obligatoires en pratique ne sont pas déduits, ne sont pas déductibles.
Et là où je trouve que c'est quand même un petit peu injuste, mais c'est une pratique courante et dans plein de juridictions, je vais à Toulon, à Nancy, je vais partout, et à chaque fois, malheureusement, je constate la même chose. Vous savez, quand on perd un dossier, quand on perd un procès, du moins, il y a une condamnation à ce fameux article 700 dont tout le monde a déjà entendu parler.
Oui. C'est l'autre qui paye, d'accord. Okay.
Voilà. En famille, à chaque fois, la phrase, c'est « compte tenu du contexte familial, il n'y a pas d'article 700 ». Et je trouve ça dingue parce que, quelque part, que ce soit un contexte familial ou pas, les clients, ils déboursent.
Ah oui, mais ils déboursent pour vous, ils déboursent pour les experts, ils déboursent pour pas mal de choses. Un divorce qui se passe mal, c'est une maison qui s'en va. Hein.
Ah mais complètement. Et puis, une perte d'emploi aussi, des fois.
Oui, et de santé.
Et un enchaînement.
Et là, on est resté au niveau du JAF. Mais quand vraiment il y a crispation et qu'il y en a, une qui dit « non, je veux pas, gnagnagna », et l'autre qui dit « oui, je le veux », après, il y a le juge des enfants. Et là, on monte d'un cran.
Alors, le juge des enfants, effectivement, le juge des enfants et le JAF ont tous les deux un point commun, c'est de voir le bien-être de l'enfant. Le juge des enfants, ce bien-être est poussé à la notion de danger. Oui. Mais le danger, c'est pas juste un danger physique, hein, c'est aussi un danger moral, d'accord? Et par expérience et de ce qu'on constate un peu partout, le juge des enfants, il est assez précautionneux là-dessus. C'est-à-dire que on va l'alerter d'une situation, il va nous dire, je lance une mesure éducative, comme ça, il va y avoir différents intervenants qui vont venir voir un peu à droite à gauche de ce qui se passe chez vous, et après je prendrai ma décision. Alors, sauf des cas d'extrême, mais en général, il fait ça. Et j'aime bien ce procédé, parce qu'au moins, ça ne charge pas tout de suite.
Est-ce que le juge des enfants, aujourd'hui, n'est pas en train de s'approprier un pouvoir qui n'est pas forcément le sien? Je veux dire, le juge des enfants, ce n'est pas un juge du fond, c'est un juge de l'urgence. Au départ, le juge des enfants, c'était pour les cas de délinquance des personnes de moins de 18 ans. Après, c'est devenu la protection de l'enfance qui était visiblement en danger. Mais l'autorité parentale, les droits de visite, les lieux de résidence et autres, normalement, c'est le JAF. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de JDE qui prennent la main par rapport au JAF et qui s'arrogent sans plainte, sans procureur, sans rien, des décisions par rapport à l'autorité parentale et l'exercice de l'éducatif.
Alors, deux choses. La première, c'est que dans les décisions et les ordonnances prises par les juges des enfants, notamment quand ils lancent une mesure éducative, c'est pas des décisions c'est pas que des décisions prises en urgence, c'est des décisions de fond, d'accord ?
Oui.
Vocation à s'appliquer sur un rendez-vous judiciaire, en fait.
Oui. Sauf que, le Code civil, la 375, je crois, il y a 9 alinéas. Le département vient en troisième position. S'il prend une décision sur le fond, il faut une évaluation des parents et des solutions alternatives et qu'ils ne le font jamais. Donc, la plupart du temps, ils font une solution temporaire parce qu'il y a un truc d'urgence et ils renouvellent pour s'en faire. Enfin, il y a des magouilles, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de JDE qu'ils vont magouiller, qu'ils ne vont pas respecter les textes et, en fait, ils s'attribuent des pouvoirs qu'ils n'ont pas.
Fond et provisoire, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils vont au fond. Et après, ils nous donnent rendez-vous un an après, en général, pour justement voir ce que ça a donné à la mesure. Ouais. Mais on peut, et par contre, ils peuvent aussi décider, effectivement, en cas d'extrême danger de l'enfant, de placer l'enfant chez le père, chez un tiers.
Ouais.
Ça, ils peuvent le faire. Mais un juge des enfants, un juge des enfants, ne pourra jamais se substituer à un JAF par rapport aux règles de l'autorité, etc.
Moi, j'ai plein de cas où il le dit. L'enfant, il n'a plus envie de voir le parent, donc il ne va pas le voir. Et donc, le parent va être débouté, puis il ne le verra pas. Alors que le parent a l'autorité parentale. Enfin, il y a plein de choses comme ça. La fameuse plainte au pénal qui a été amenée ensuite au civil, après, elle est classée et autres, mais il y a eu rupture des liens, etc. Mais le JDE va porter des jugements qui ne sont pas basés sur les codes de procédure ou sur les textes. Il va estimer que. Il va demander l'avis de l'enfant, il va regarder. Mais il n'est plus en train d'appliquer des codes de procédure. Donc, en fait, il s'attribue un pouvoir qui essaie de l'agrandir de plus en plus. Et dans les réformes qui viennent, on le voit d'ailleurs, les différentes réformes qui ont été déposées à l'Assemblée et autres, bientôt, il va demander à prendre les pouvoirs du JAF.
Je ne peux pas partager votre avis là pour le coup, parce que même encore récemment... Non, mais parce que même encore récemment, j'ai un juge des enfants qui m'a dit « Je ne vais pas me substituer au JAF. » Vraiment, quand je vous dis récemment, c'était la semaine dernière.
Okay.
Donc vraiment, je pense qu'ils essayent à 99%.
Eh bien lui, il a raison. Il a raison parce qu'il n'est pas là pour ça. Voilà,
c'est ça. Après, par contre, pour revenir sur votre histoire de plainte, et après, ça, c'est, on, c'est, la, c'est la, on jette la bouteille bouteille à la mer et on se raccroche à tout. Ça c'est dommage parce que on arrive des fois à des situations sur une simple plainte. Une plainte, c'est déclaration. Quand demain je peux aller porter plainte contre vous.
Ah oui.
Tant qu'il y aura pas d'enquête. Non mais tant qu'il y aura pas d'enquête. Ah ouais. Voilà, ce sera que mes déclarations.
Ah puis vous prenez un enfant une heure, vous le baratinez bien, vous le droguez un peu et tout. Vous dites ce que vous voulez. Hein,
c'est exactement ça et là-dessus je suis entièrement d'accord. Et de ce fait, cette déclaration, elle ne peut pas par contre servir d'ouverture à une procédure civile tant que l'enquête, l'instruction pénale n'a pas abouti. Ça par contre, je pense qu'ils sont de plus en plus vigilants parce qu'ils se sont rendus compte que la petite main courante du vendredi soir ou du dimanche soir, parce que c'est là où on récupère les enfants, etc. Et la plainte avec un certificat médical à l'appui, et comme par hasard, mais qui a été fait quelques heures après, et d'une griffe, on est passé à un cocard, moi j'ai vu aussi. Donc vous voyez, faut là-dessus, je pense qu'il faut attirer leur attention, et c'est notre rôle, nous, en tant qu'avocats, pour le coup, de dire attention, restez prudents. Il y a une présentation qui semble être cohérente, grave, à l'encontre du père, parce que c'est souvent eux qui sont accusés, hein, mais faites attention, voilà, parce qu'il ne faudrait pas que ça renverse la vapeur et qu'on se rende compte que finalement, tout ça n'était que supercherie.
Voilà. Alors, si vous vous retrouvez face à une ou un de vos confrères qui se comporte mal et qui va utiliser tous les coups bas pour gagner et exclure le parent, vous allez faire comment?
Alors déjà, s'il me fait pas à moi personnellement, mais en tout cas dans mon dossier...
Non, mais dans l'affaire, dans le dossier, ça existe, hein, on en voit quand même. Hein, des fois, tous les moyens sont bons.
Vous savez, il y a un truc dans mon métier qui dit parallélisme des formes.
Ah, un miroir.
On me fait un sale coup, je le dénonce, il n'y a pas de réaction, je ferai tout pour pouvoir rééquilibrer les choses. Alors ça, par contre, ça, c'est un vrai trait de caractère que j'ai. Donc, voilà. Et après, si ça dépasse l'enjeu du dossier et que ça devient, parce que vous savez, des fois, j'apparte hein, quand même. Voilà, mais on peut aussi, après, en sortant, boire un café, ça dépend, hein. Ça, il n'y a pas de difficulté non plus. Mais si ça va trop loin, après, c'est par rapport à un oreille professionnel. Mais dans le dossier, je vais pas non plus nous faire passer pour des saints, nous les avocats, mais c'est souvent nos clients qui nous sollicitent pour des actions. C'est à nous aussi de dire attendez, non, vous voulez m'emmener sur ce terrain-là, je n'irai pas. Il faut aussi que nous on se fixe des limites. C'est déontologiquement, c'est du respect pour la justice. Alors ça peut paraître une belle phrase, mais moi j'en suis convaincu. Et ça nous arrive aussi dans nos bureaux de dire ah non, mais vous voulez me faire faire ça ou me faire dire ça, je ne dirai pas. Voyez, je trouve que c'est notre rôle aussi. Mais par contre, après, s'il faut mener la guerre, je mène la guerre. En soi, je n'ai pas de problème avec ça.
Parce que vous n'avez pas l'impression, vous, en tant que professionnel, qu'on est en train de confier des choses importantes, la famille, nos enfants, à des personnes qui sont débutantes et en début de carrière, qui sortent à peine de l'école. On a cette impression-là, parfois, nous, est-ce que vous la partagez?
Alors, premièrement, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'on a tous commencé un jour.
Sûr. Bon. Il n'y a pas que là, hein, c'est pareil pour les écoles, lorsqu'on envoie les profs dans les cités. Hein, oui. Mais là, en attendant, on a un problème avec nos enfants. Quand on voit les chiffres et tout, 450 000 enfants placés,
si vous parlez de divorce, voilà. Si votre question porte sur les magistrats qui sont jeunes, les magistrats, ils ont une super formation.
Est-ce qu'ils sont vraiment formés à cette problématique-là ? Ils sont vraiment formés à ça, on a l'impression. Alors, s'ils sont formés à ça, pourquoi est-ce qu'il y a un tel déséquilibre de fait ?
Un juge statue en fonction des éléments, mais aussi, il est humain.
Oui, mais comment on sort du subjectif lorsqu'on sort de la magistrature ? On n'a pas eu le temps d'enfanter, on n'a pas eu le temps de faire une famille. Le subjectif est très différent de la personne à cheveux blancs qui est marquée, qui a eu 3 enfants, qui a une expérience de vie, et ils ne vont pas sentir les mêmes choses pareilles, vous voyez, c'est...
Ce terrain-là, il est très dangereux. Déjà, de une, je réaffirme, hein, je réaffirme ou je confirme que les magistrats sont formés. Et de deux, est-ce que en ayant la connaissance ou en vivant les choses, on est plus apte à prendre les meilleures décisions? Je ne suis pas sûr. Quand je vous dis que les juges sont humains, c'est pas la subjectivité qui va les faire décider. Hein. Ils ont leur avis, mais c'est pas en fonction de leur avis qu'ils vont décider, c'est en fonction des éléments du dossier. Oui. Avant tout, soyons clairs.
Je dis pas que c'est madame, il y aurait pas...
Vous savez ce que je dis souvent ? Je dis à certains clients de venir ou à certains de ne pas venir. Le délit de faciès, il existe aussi. Et je suis désolé.
Autrement, il n'y aurait pas la discrimination anti-père que vous dénoncez depuis le début de l'interview, là. Hein.
S'il n'y avait pas ce rapport à la jeunesse dans la magistrature.
Si la formation était effectivement efficiente, hein, et si les personnes ne se faisaient pas aussi facilement avoir, nous n'aurions pas ces problèmes. problème-là. Après, c'est un choix de société, hein, le fait qu'on mette les femmes qui sortent de la magistrature au service des couches culottes en premier avant qu'elles puissent aller au poste auquel elles aspirent. Moi, j'y peux rien, hein, c'est un choix.
Ouais, quoi, mais alors, hein, alors ils sont formés, mais ils apprécient aussi en fonction des dossiers, vous voyez.
Ouais.
Ça, je ne peux pas laisser dire le contraire, parce que franchement. Et à l'inverse,
ça sent pas trop la performance.
Oui, mais regardez, je vais vous prendre un contre-exemple. Vous dites, les jeunes magistrats, ils sont peut-être pas, ils n'ont pas de vécu, etc. Vaudrait peut-être mieux prendre quelqu'un qui a les cheveux gris. Une personne qui a les cheveux gris, ça veut dire qu'à un certain âge, d'accord.
Dans certaines civilisations, on fait comme ça, oui.
Elle aura l'expérience de la vie, c'est certain. Mm-hmm. Mais sauf que c'est pas non plus de la génération actuelle, et peut-être qu'une personne de un magistrat qui, je vais exagérer volontairement, qui aurait 80 ans, qui exerce, qui statue, il comprendra pas les pères super impliqués. C'est aussi un problème générationnel de société, et faut être en adéquation avec la société dans laquelle on est et dans laquelle on travaille.
Oui.
Et
donc, le magistrat en question, il n'existe pas parce que il y a un homme pour 40 ou 50 femme. Et puis, je pourrais aussi dire que j'étais de passage dans ce pays et qu'il y a des gens qui n'avaient jamais eu d'enfant, voire qui n'avaient jamais eu de relation sentimentale, qui sont venus me dire à moi ce qu'il fallait que je fasse. Et puis finalement, je me suis retrouvé bloqué ici durant plus de 10 ans et je repartirai pas. Je peux aussi dire ça, vous voyez.
Mais leur décision n'est pas prise parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant ni quoi que ce soit.
Ah,
leur décision est prise en fonction du...
Notamment, il y en avait une, il y a un problème de maturité. Elle sera très certainement, mais il faut laisser le temps aux gens de mûrir aussi. On peut pas les envoyer au feu sur des choses importantes tout de suite après l'école. Il faut donner le temps aussi au vin de prendre son arôme, je veux dire à la personne de s'établir. On a fait le choix d'envoyer des débutants qui sortent de l'école s'occuper du civil. Il y a peut-être une façon de...
Mais oui, mais il y a la même chose au pénal, et il y en a des très compétents. Ce que vous dites, à mon sens, si on pousse le raisonnement, ça peut même être dangereux. Ce serait quoi le critère pour que ça corresponde à l'expérience, à la maturité et à la compétence? Ça serait quoi le critère?
Ce que vous venez de dire, je peux le retourner sur les profs qui sortent de l'IUFM ou de l'école qui a changé de nom comme ça, puis qu'on envoie dans le 9-3 auprès des publics les plus difficiles, qui sont totalement expérimentés. D'ailleurs, plus personne ne veut faire prof aujourd'hui, hein. Il y a des raisons aussi à ça. Mais je veux dire, c'est un choix de société. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? À quel endroit est-ce qu'on met les personnes qui vont apprendre et se faire de l'expérience et autres et avancer dans la vie? Et à quel endroit est-ce qu'on va mettre les personnes qui ont vraiment les usages, l'expérience et qui sont montées en puissance, vous voyez. Personnellement, ayant été très touché par rapport à mes enfants, j'aurais tendance à vouloir des gens performants sur mes enfants. Mais je vois midi à ma porte.
On peut être performant en sortant de l'école.
Oui, aujourd'hui, pas tellement.
Je partage pas votre avis là-dessus. Ah. On peut être performant en sortant de l'école, même si on n'a pas d'enfants. Comme on peut être totalement incompétent à 55 ans en ayant eu des enfants parce qu'on n'est pas de la génération et on ne comprend pas un père investi.
Enfin, moi, j'essaie de trouver pourquoi le système n'est pas performant. J'essaie de trouver les explications parce qu'il y a un manque de performance du système. Alors, je suis désolé de dire que...
J'ai une idée là-dessus, mais c'est...
Allez-y, parce que nous, on essaie d'en proposer aussi.
C'est ma vision
des
choses. Vous savez, le code civil, il a été fait de façon très patriarcale. C'était le père, vraiment, patriarcal, machiste. On vote, enfin, le droit de vote des femmes, le compte en banque des femmes, vous savez que c'est super récent et tout ça. Vous voyez, le code civil est... Je poursuis mon raisonnement, après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, moi, c'est ce que je pense. Et en fait, aujourd'hui, de cette conception machiste et patriarcale absolue, on en est arrivé aussi à aujourd'hui à renverser totalement la valeur. C'est-à-dire que, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de curseur, et bien là, c'est pareil, on ne sait plus où le placer, le curseur. Donc aujourd'hui, enfin, ça va vous faire rire, en plus, je suis une femme. Regardez le nombre de femmes qui sont pour bricoler. Il n'y a plus de règles aujourd'hui, vous voyez. On a renversé tout ça. Cette conception de l'homme, de la femme et de ce qui en découlait, aujourd'hui, c'est renversé. Donc là, finalement, le contentieux civil et le contentieux JAF, il est aussi le reflet de tout ça.
Madame Castelin-Meunier, qui est chercheuse, l'HESS, l'École des hautes sciences sociales, qui est derrière la loi de 2002 pour la résidence alternée, qui est derrière le congé paternité d'Adrien Taquet et tout, me dit qu'en fait, on vit un rééquilibrage et que ce patriarcat que vous présentez aujourd'hui, en fait, provient de la révolution industrielle qui a entraîné une grande genrisation des gens, mais qu'auparavant, dans les classes populaires, je ne dis pas au niveau de la noblesse et de la bourgeoisie, là, mais au niveau des classes populaires, ils allaient tous ensemble au champ, et puis quand il y avait un truc à faire avec les gosses, ils le faisaient ensemble. Donc après, les comptes bancaires, bancaires sont arrivés relativement tardivement, 19e siècle, par là. Les droits de vote, bah, avant, on ne votait pas, hein, puisqu'il n'y avait pas de démocratie ni rien. Donc, en fait, il y a eu une genrisation extrême de la société post-révolution industrielle qui venait, en fait, que, ben, on allait prendre les costauds pour les mettre à l'usine de 8h du matin à 11h du soir. Et qu'en fait, aujourd'hui, la demande d'implication des pères par rapport à leurs enfants, le fait que le travail est moins une priorité et que bah, chacun fait un peu ce qu'il a à faire sans forcément l'étiquette sur le front, c'est un rééquilibrage naturel.
Ah, c'est l'évolution de la société. Non, mais
oui.
Je
pense que c'est un rééquilibrage dans le bon sens, d'ailleurs. Je pense que ça va dans le bon sens. C'est un bon rééquilibrage.
Dans le bon sens, je ne suis pas certaine encore. Moi, je ne suis pas encore convaincue.
En théorie, après, il ne faut pas taper non plus 100%. Enfin, je veux dire, des fois, on a l'impression... Vous savez, se retrouver un homme dans une salle d'audience, on est le seul parmi 6 femmes, et on se fait cracher dessus, ce n'est pas un moment agréable.
Ah, mais j'en doute pas. J'en doute absolument pas. Je le sais bien, en plus. Je le vois bien. Hein. C'est déjà pas marrant de se rendre dans un tribunal, mais alors encore moins, effectivement, parce que c'est une majorité de femmes qui déjà, les avocats en droit, c'est souvent des avocates, très souvent. Les magistrats en JAF, c'est souvent des femmes, effectivement. Donc, c'est sûr qu'il n'arrive pas en terrain conquis tout de suite. Mais c'est pour ça qu'il a besoin d'avocates comme moi, mais il y en a d'autres, hein, qui sont convaincus que les pères, voilà, il faut leur laisser la place aux pères, laisser la place aux hommes, et je pense qu'on ne s'en portera que mieux. Ça ne veut pas dire réduire la mère, ça ne veut pas dire humilier la mère, ça veut juste dire repartons à zéro, on a la même chose et on applique la même chose pour les enfants, point. On est en train de nous détruire les relations hommes-femmes, on est en train de nous détruire tout ce qui concerne la masculinité, la paternité. Je trouve ça dommage. Moi, je ne sais pas ce que ça donnera dans 20 ans, parce que la société évolue, donc elle va continuer d'évoluer. Moi, je ne sais pas comment mes petits futurs petits-enfants, ils géreront leur vie et dans leurs relations familiales et de couple, mais je trouve que ça ne laisse pas un bon présage. Le rapport de force, il peut être instantané, mais il ne doit pas être continu. Et là, on a l'impression que c'est un espèce de combat continu qui finalement nuit à tout le monde.
Maître Mini, j'étais content de vous rencontrer. Il y a une vraie profondeur. Je vous ai un peu secoué de temps en temps. Je peux le dire, là, on est quasiment... Enfin, c'était une rencontre que j'ai beaucoup appréciée. Puis c'est mon rôle aussi, parfois, de pousser un peu.
Oh, j'ai aucun problème avec ça, vous savez.
J'ai vu.
Ouais, non, ça, on est habitué, hein.
Bon.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Et pourtant, je suis adulte, hein, plus qu'adulte.
Ouais.
Je mesure encore plus l'importance d'un père.
Et oui, vous me disiez que votre père vous a manqué.
Mon père qui est parti depuis 3 ans, oui. Et pourtant, je suis adulte, majeur et vacciné. Et j'ai encore plus mesuré l'importance d'un père depuis son départ, effectivement.
Ah, mais ça, on a fait beaucoup d'émissions de psycho ici. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu. Mais on a étudié ça aussi. Dans un parcours de vie d'être humain, la perte des deux parents, qui normalement est un processus normal, hein, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Mais à chaque fois, ce sont des étapes très profondes et qui nous construisent quelque part aussi. Qui font, il faut les traverser. Quoi. C'est vraiment des étapes à traverser.
Il faut les traverser, c'est vrai. Et au bout d'un certain temps, il y a un avant. On se rend compte qu'il y a eu un avant, un après.
Ah oui.
Il faut passer les regrets. Il faut franchir une autre étape. Je n'arriverai pas à la qualifier d'ailleurs. Il faut avancer avec ça. Il faut y trouver une force, en fait. Même si des fois, c'est forcément douloureux quand on y repense trop, il faut que ça soit, en y pensant, il faut que ça puisse représenter une force pour nous donner l'énergie pour continuer. Enfin, moi, quand je repense, par exemple, au magnifique souvenir que j'ai avec mon père ou même ma grand-mère, parce que dont j'étais très proche, ça me rend triste et en même temps, ça me rebooste. Me dis, ils m'ont pas aimé pour rien. Il faut que je continue.
Mais
ça, ça peut paraître bête, mais bon, moi, c'est en tout cas ma façon de tenir et d'avancer.
Vous avez des sensations, des fois, l'impression des dialogues intérieurs ou des émotions qui passent ou une chose comme ça?
Ah, bien sûr.
Ouais,
bien sûr. En plus, je suis très ouverte là-dessus et très en quête de tout ça. Donc, oui, bien sûr.
C'est étonnant parce qu'on a démontré que l'accès à la parentalité changeait la physiologie des personnes, la mère et le père. C'est visible par IRM. C'est Sébastien Dupont qui explique ça, ce qui se passe aux études américaines. On voit par IRM d'ailleurs que des zones du cerveau ont évolué. Donc physiologiquement, devenir parent fait qu'on a des changements physiologiques, dont psychiatriques, dont psychologiques. Donc le rapport au monde n'est plus le même. Et voilà. Et moi, je pense qu'à chaque fois qu'on perd un de ses parents, on se transforme aussi.
Ah oui, je pense la même chose que vous. Je pense que ça met peut-être plus de temps. Et quand on devient parent, il y a une notion d'instantanéité. C'est-à-dire que tout de suite...
Il y a une bouffée d'hormones et je claque, on le sent, il y a un truc qui se passe là, il y a un machin, un interrupteur qui se lève. Ouais, ça je suis d'accord, je l'ai ressenti aussi.
Exactement, c'est ça.
Ouais.
C'est vraiment dans l'instantané, quoi. Alors que
violent,
pour la perte
c'est
d'un
puissant,
parent...
Hein, c'est puissant.
Ouais. Ah, c'est très très puissant. Ouais. Et d'ailleurs, cette sensation-là, on la retrouve pas. Moi, j'ai eu ma fille, j'avais 30 ans, j'ai jamais retrouvé cette sensation.
Ah, c'est le truc le plus fort que j'ai eu dans ma vie. Absolument. J'ai pas trouvé d'équivalent, c'est le truc le plus fort que j'ai traversé. Cet instant de où
on est d'accord.
Absolument.
Alors que pour le deuil, pour la perte d'un des parents, oui, il y a peut-être une transformation physiologique, psychologique, très certainement, ça c'est, j'en suis convaincu aussi, mais c'est un acheminement, c'est un chemin, c'est un travail, ça se fait pas en instantané. Il y a plusieurs étapes, et puis on arrive après à une espèce de rythme de croisière qui nous renvoie finalement toujours aux mêmes émotions.
On est presque sur 6 mois, 1 an d'ailleurs, si je me base sur mon expérience personnelle.
Les 6 premiers mois, ils sont cruels.
Oui.
Et on est aussi dans le déni. Il y a quelque chose dit tellement irrationnel d'avoir perdu un de ses parents qu'on a l'impression que c'est pas vrai, qu'on a des espèces de sursauts comme ça. Enfin, il y en a. Vous devez avoir dans vos proches aussi des personnes qui vous l'ont dit. Vous réveillez un matin, vous dites bah tiens, je vais appeler papa. Ah ben non, c'est vrai. Mais comme si le cerveau l'avait pas encore conscientisé. Hein, ça, de toute façon, c'est une certitude. Et puis une fois que ça c'est accepté, il faut vivre avec la douleur, avec le manque. Et c'est ce que je vous disais. C'est douloureux, mais il faut y puiser sa force. Sinon, on n'avance plus. Alors, et je suis certaine que les personnes qui sont de nos proches décédés, ils veulent nous voir avancer.
Oui, puis ils espèrent qu'on avance bien. Et puis, il y en a qui disent que perdre nos parents nous fait vraiment devenir adultes. Parce qu'en fait, on perd le filet de sauvetage. Moi, je me disais, si je me plante, je vais chez eux. Maintenant, il n'y a plus de chez eux, là. Donc, on ne se plante pas.
Vous êtes obligé de mûrir. Et puis, selon l'âge auquel vous perdez vos parents, il y a un moment, on se rend bien compte, même quand ils sont vivants, qu'on devient finalement un peu aussi leurs parents, parce qu'on veut en prendre soin, parce que ça y est, on a grandi. Et donc, c'est à nous aussi de les protéger. Il y a un système qui s'inverse.
On devient ami. Quand ils grandissent, quand nous, on grandit, il n'y a plus la relation comme ça, de verticale. Et en fait, le top, c'est quand on réussit à avoir cette espèce de... Enfin, moi, j'ai passé des soirées avec mon père, avec une bonne bouteille et tout. Ça s'est arrêté trop vite. Mais en fait, le top, c'est quand on arrive à être papote, parce qu'il y a toujours cette espèce de respect. Mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu, là. On est,
Oui, il y a une complicité d'adulte à adulte, mais tout en ayant conscience de la relation maternelle ou paternelle. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ça, c'est l'idéal. Mais en général, quand on arrive à ce moment-là, ça suit avec une perte derrière, parce que c'est les âges aussi qui nous font arriver à la situation que vous êtes en train de décrire.
Ben oui.
C'est en fonction de l'âge.
Ben oui.
Pas à 20 ans que vous allez partager une bonne bouteille avec votre père. C'est plus tard.
Oui, mais oui.
Voilà. Plus tard, ça veut dire qu'il est plus âgé et qu'il est plus près, malheureusement, de quitter ce monde. Enfin, tout ça, c'est un rapport. Et pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai. Une fois qu'on n'a plus nos parents, il n'y a plus ce filet. Ma fille, c'est drôle parce qu'elle me l'a dit encore il n'y a pas longtemps. Elle en a pleinement conscience aussi, et c'est vrai, là, on n'a pas le choix, on doit se débrouiller. Alors qu'en fait, on se débrouillait déjà, même quand ils étaient là, mais on savait qu'il y avait la porte ouverte et que voilà.
Mais c'est un processus normal, hein, et ça, on le voit. Enfin, j'ai vécu plusieurs années en Asie, on a les 4 générations sous le même toit, donc c'est un processus, sauf accident, ça se passe comme ça. Je veux dire, on est enfant, on fait des enfants, les grands-parents nous aident à l'éducation des enfants, en même temps, ils ne vont pas aller jouer au foot avec eux comme ils ont joué avec nous, pour prendre des exemples bateaux, et puis après ils s'en vont et puis on les aide dans les difficultés qui leur arrivent si jamais ils ont un vieillissement qui est normal, qui est naturel, et puis en même temps nos enfants voient ça, ils nous voient le faire, et puis la boucle continue, il y a une espèce de boucle comme ça, et c'est le chemin.
Une répétition du schéma, oui, effectivement.
Ouais, c'est le chemin même. C'est
important, ça.
Ouais, tout à fait. On perd un peu ça en Occident.
Vous pensez
Oui, regardez tous ces trucs, là, les parents contre les enfants, les frères contre les sœurs, les enfants contre les parents, les vieux dans les EHPAD. On a vraiment perdu ce truc qu'on avait encore chez nous il y a 100, 150 ans.
Ah oui, mais ça reflète aussi cette partie assez conflictuelle, assez tendue de la société. Elle se retrouve, vous savez, moi je fais beaucoup de droit de la famille. Dans le droit de la famille, il n'y a pas que le droit des pères, il y a aussi le droit des successions, etc.
Bien sûr.
Il se passe des histoires complètement dingues.
Mais ils nous prennent pour des sauvages, eux.
Ah oui.
Ils nous prennent pour des sauvages. Hein. Ouais. Ils disent qu'on ne fait pas attention les uns aux autres, qu'on est très brutaux dans nos relations familiales et sentimentales. Ils nous voient comme ça.
Il n'y a plus de concessions. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus cette notion de dire les liens du sang, ils doivent perdurer et préexister et même prédominer. Il n'y a plus cette notion-là. Chacun voit l'intérêt juste au bout de son nez, comme dirait mon père, et terminé. Ah. Et du coup, ça crée des conflits, et puis des fois pour pas grand-chose.
Ah oui, mais oui, ça c'est le conflit.
Très souvent pour pas grand-chose. Dans les successions, quand il y a beaucoup de patrimoine, etc., alors le prétexte, c'est l'estimation de tel bien, etc., mais derrière, c'est pas ça du tout. Derrière, c'est parce que dans une fratrie, il y en a une qui s'est sentie toujours un peu exclue et moins aimée de ses parents et qui a envie de batailler contre tout le monde. Voilà. Derrière, il y a toujours une, il y a franchement, dans 90% des cas, toujours une raison affective au déclenchement d'un procès judiciaire. Alors ça, je l'ai pu le constater. Ça commence à faire quelques années maintenant que j'exerce et vraiment, et c'est dommage. Après, il faut savoir être raisonnable et puis savoir se détacher de ça parce que ça aussi, ça peut polluer. Vous voyez, on parlait du deuil, mais toute cette ce côté administratif successoral qui suit la perte de la personne, ça déclenche des choses aussi.
Oui, c'est
ça
vrai.
Ça déclenche beaucoup de choses aussi.
Tout à fait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.